Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les freins au changement, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 3. Je reçois Pierre Alix, qui a un vrai parcours d'aventurier. Il nous raconte comment il est passé du conseil en performance à l'activité de formateur sur les sujets énergie-climat. Un changement qui s'est fait dans la durée, à travers de multiples expériences qui l'ont mené sur un voilier en Atlantique, sur les chemins de France à pied et en Argentine à vélo. Bonne écoute. Bonjour Pierre-Alix.
Salut JP.
Alors on s'est rencontrés lors d'un atelier « Comment agir pour le climat ?» qui s'appelle maintenant « Deux tonnes », dont tu étais l'animateur. Ça fait 3 ans que tu t'intéresses au sujet énergie-climat et à la transition écologique au niveau professionnel, ouais. Puisque tu as lancé en 2017, si je ne me trompe pas, un projet entrepreneurial en Argentine qui visait à réduire l'empreinte carbone des organisations grâce aux énergies renouvelables. Mais avant ça, tu as travaillé au Canada pendant presque 5 ans à l'organisation d'événements sportifs pour les entreprises. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et comment tu as décidé de changer de voie ?
Oui, ben merci. En deux mots, moi je suis né à Lyon en 1990, mais j'ai eu la chance de grandir d'abord à La Réunion pendant 3 ans et ensuite en Guyane pendant 10 ans. Donc j'ai eu une enfance et une adolescence merveilleuse, notamment en Guyane. Et ensuite je suis retourné étudier en métropole. Et mes études, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais trop fainéant pour certaines choses. Et donc finalement ça m'a amené à faire une école de commerce, mais aussi une fac de philo en parallèle. Donc j'ai fait les deux choses parce que je savais pas trop choisir et que je trouvais ça enrichissant. J'ai fait tout ça et puis ensuite j'ai découvert une offre de stage à Montréal pour une entreprise qui voulait créer de la mobilisation d'équipes dans les entreprises via des projets où le but c'était d'unir les gens en les faisant rêver ensemble avec des programmes qui les motive pour travailler sur eux-mêmes, pour travailler individuellement et collectivement sur eux-mêmes via des accomplissements, d'aventure et de sport avec ce que soit gravir des montagnes par des températures hivernales ou courir en relais en course à pied de Montréal à New York. Et donc j'ai trouvé ça génial. Je suis parti là-bas en stage, j'ai été recruté et je suis resté pendant 5 ans à faire beaucoup de beaux projets.
Alors, excuse-moi, je t'interromps. Si je fais un petit saut dans le temps avant l'expérience de Montréal et au Canada, juste, est-ce que tu pourrais dire 2 mots peut-être sur ta jeunesse en Guyane, ce que tes parents faisaient, enfin comment ça se fait que tu aies grandi là-bas, tes parents sont guyanais?
Non, mais mes parents sont métro, comme on dit en Guyane, donc métropolitain. Mais en fait, c'est un peu le cycle de la vie et de l'amour des parents, des divorces et des remariages qui ont fait qu'avec ma mère et mon frère, on a été amené à partir en Guyane où mon beau-père avait une entreprise et dans laquelle il était en Guyane depuis 20 ans. Et donc, on s'est installé là-bas. Moi, j'avais 7 ans et ma mère était prof. Mon beau-père avait une entreprise de signalétique à Kourou, donc là où il y a le centre spatial guyanais. Et voilà, c'était vraiment une enfance et une adolescence merveilleuse, quoi. On était tout le temps dehors, on faisait tout à vélo. Là-dessus, je me considère vraiment un immense privilégié parce que grandir en Guyane, c'était magnifique pour moi. Voilà.
Et tes études, alors, t'en as brièvement parlé, mais alors, c'est quand même un petit peu, spécial de faire à la fois une fac de philo et une école de commerce. Pourquoi ?
Ouais, alors pourquoi? C'est un petit peu comme je t'ai dit, moi j'ai fait un bac S, mais j'avais plus un profil littéraire. Mais je savais pas trop quoi en faire. Donc j'ai fait une prépa lettres, mathématiques et sciences sociales. Comme ça, je me suis dit, il y a de tout, ça m'ouvre toutes les portes. Et puis ensuite, sont venues à moi trois options. C'était soit, ce qui me paraissait le plus pertinent pour moi, c'était soit les IEP, donc les Sciences Po, soit l'ENS, soit les écoles de commerce. Sciences Po, j'ai passé deux concours, je les ai ratés. L'ENS, il fallait travailler d'arrache-pied et être brillant, et je n'étais probablement ni capable de l'un ni l'autre. Et donc, par défaut, un peu, ça s'est allé vers les écoles de commerce. Mais dès les tout premiers moments, je me suis rendu compte qu'il y avait une émulation intellectuelle que j'avais en prépa, que j'adorais, que je n'avais pas là-bas. Et je voulais continuer à avoir ça. Et donc, par le jeu des équivalences, entre prépa et fac de philo, j'ai pu intégrer la fac de philo à Toulouse. Et pour moi, c'était important parce que je voulais avoir cette simulation intellectuelle, mais aussi un autre. Voilà, en école de commerce, il y a quand même des catégories sociales qui sont surreprésentées. Il y a des catégories, des visions du monde aussi parfois qui sont surreprésentées. Et je voulais avoir quelque chose d'autre. Je voulais avoir une autre vision. Et donc, le fait de faire une fac de philo, d'aller en cours de temps en temps, même si j'étais en enseignement à distance, d'être confronté à un monde qui avait des positions très différentes en général de l'école de commerce, pour moi, c'était super intéressant, c'était très, très enrichissant, ouais, très rafraîchissant.
Je refais un bond dans le temps, après les études et en sautant sur le parcours que tu as pu avoir pour l'instant, pour passer à aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Donc aujourd'hui, je fais de la formation. Et de l'animation d'ateliers sur les enjeux énergie-climat, et notamment deux, l'un qui s'appelle la fresque du climat, qui est un atelier interactif pour comprendre les mécanismes du changement climatique, et l'autre qui s'appelle 2 tonnes, comment agir pour le climat, qui lui est un atelier qui permet en fait de façon très ludique là aussi et très participative. Et après réalisation d'un bilan carbone individuel par l'ensemble des participants, comme tu l'as fait, de simuler de 2020 à 2050 différentes mesures qu'on peut prendre au niveau individuel et au niveau national, comme si on était un gouvernement, et de simuler l'impact de ces mesures sur le bilan carbone individuel et national, et de voir comment on peut arriver à trouver des mesures et à avoir une séquence de mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et donc de passer de 12 tonnes équivalent CO2 par an par habitant en moyenne à 2 tonnes par an et par habitant. Donc c'est assez passionnant.
Et je ne peux que recommander, hein, d'ailleurs, ces deux ateliers que j'ai faits, à la fois la fresque et 2 tonnes. C'est effectivement passionnant. Et ça fait combien de temps que tu fais partie de ces associations?
Alors la fresque, j'ai découvert en 2000, début 2019, mais ça fait depuis décembre 2019. Et 2 tonnes, ça fait depuis 3-4 mois, je pense.
Ok, donc c'est assez récent. Et c'est en lien avec ton retour en France, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Je me suis retiré de l'entreprise que j'avais cofondée en Argentine en décembre 2019. Et je trouvais que c'était une excellente façon de continuer sur la même voie et surtout à court terme, j'avais envie d'apprendre sur ces sujets-là de façon un peu moins pratico-pratique entreprise et un peu plus avec de la théorie et un peu plus aussi avec de la théorie sur les enjeux pédagogiques. Et je voulais vraiment, j'irais muscler cet aspect-là de mes compétences de formateur. Et donc, je me suis dit, c'est la meilleure façon à la fois d'avoir un vrai impact, et notamment durant le confinement, sur la prise de conscience des gens, mais aussi pour moi d'Oshendo Dissimus, j'aime bien dire, donc c'est-à-dire de enseigner, c'est apprendre. Et je sais que moi, c'est ma meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner les choses. Ça m'oblige à structurer mon discours, ça m'oblige à lire, ça me met un stress, et donc ça me permettait de continuer à apprendre sur ce sujet-là.
Parce que tu faisais déjà un peu de formation avant, en fait, avec ton projet en Argentine. Bah, d'ailleurs, si tu peux en dire quelques mots. Hein.
Oui, c'est ça. En quelques mots, en Argentine, en fait, je suis arrivé en Argentine avec ma compagne en voilier en septembre 2017. Et l'idée qui nous avait animé, c'était de faire une investigation sur une thématique liée à la transition écologique. On n'y connaissait pas grand-chose. Et en arrivant, on s'est rendu compte que les énergies renouvelables étaient un enjeu fondamental défini comme priorité par le gouvernement. Et on s'est dit, on va investiguer sur le sujet en allant vraiment sur le terrain. Et ça, encore une fois, ça va être un moyen d'apprendre tout en parlant de la thématique en dehors des grandes villes. Et donc, on est parti à vélo et on a commencé cette investigation à aller rencontrer des responsables politiques locaux, des ingénieurs, des directeurs d'écoles agraires, des porteurs de projets, des universitaires, des entrepreneurs, c'était vraiment génial. Et ce projet qui a évolué au cours de 7 mois est devenu une entreprise. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait un besoin de conseil, il y avait des projets qui nous semblaient pas assez bien gérés, et notamment sur l'argent public, on trouvait que c'était dommage, qu'il y avait beaucoup de pertes. Et donc on s'est dit, il faut conseiller les gens pour essayer de structurer les projets. Donc on s'est associé avec un ingénieur et on s'est lancé dans une entreprise qui s'est appelée Renovaction. Et voilà. Et donc on faisait
Génial.
de notre cœur, c'était la transition énergétique au sens très large, parce qu'on connaissait pas trop le marché. Donc on s'est dit, on va essayer de voir quels sont les besoins et trouver des solutions. Et très vite, en fait, on s'est centré sur le secteur viticole et touristique à Mendoza en Argentine. Et on a fait beaucoup d'efficacité énergétique avec une partie formation, parce qu'on voulait que ce soit pas juste des considérations techniques qui soit abordé, mais vraiment que les gens puissent comprendre le travail qui est mené et qu'il y ait un travail de sensibilisation, de formation et d'interactivité. C'est-à-dire que les gens puissent aussi proposer des choses dans les mesures qui devaient être prises.
Quand tu es parti au début en Argentine, donc c'était pas un projet entrepreneurial, mais comment t'es venue cette idée de partir, enfin déjà de partir en voilier, c'est quand même pas commun, enfin c'est venu d'où?
J'avais démissionné une première fois de l'entreprise pour laquelle je travaillais à Montréal en mars 2016. En mars 2016, pour différentes raisons, et je pourrais t'en parler. Notamment parce que je voulais faire le Tour de France à pied. Donc, j'ai démissionné et je suis parti faire le Tour de France à pied. Ça a été une aventure géniale pendant 4 mois, mais je me suis blessé et j'ai pas pu continuer. Et sachant cela, l'entreprise m'a rappelé pour que je revienne. Donc je suis revenu en Argentine en disant je viens pour une mission de 4 mois. Et cette mission m'a permis à la fois de me rendre compte que effectivement j'avais envie d'autre chose, de me remettre en couple avec une copine. Et ensemble on a décidé de repartir, qu'on avait envie de continuer à vivre des aventures, mais qu'on voulait pas juste se voyager, mais on voulait apprendre et on voulait avoir un impact social et environnemental. Donc c'était
D'accord.
la clé, c'est-à-dire voyager, un côté aventure avec soit le vélo, soit la marche à pied, puis c'est devenu le vélo, apprendre et avoir un impact. Et après il restait à trouver le sujet exact, parce qu'en fin de compte on ne connaissait rien sur ces aspects-là. Et donc le sujet exact il s'est un peu imposé, encore une fois sur place, en entendant parler, en commençant à lire un peu la presse, et ça s'est imposé comme ça.
D'accord, t'es pas parti avec le sujet en tête, c'est vraiment sur place que le sujet est venu de lui-même.
Ouais, c'est ça, ça s'est cristallisé. Alors c'est sûr que le voilier, c'est 34 jours, ça laisse quand même du temps de réflexion. Mais le temps de réflexion, c'était plus sur le type d'aventure, et puis sur ça a permis vraiment de continuer à voir que ce sujet-là, c'est-à-dire cet aspect transition écologique, et avec toute la partie sociale que ça suppose, que c'était au carrefour de ces enjeux écologiques et sociaux qu'on voulait sur lesquels on voulait investiguer, servir à quelque chose et apprendre. Et donc après, ça c'est dès qu'on a entendu parler des énergies renouvelables, même si on n'y connaissait pas grand-chose, et a posteriori, très vite, on s'est très vite décalé des énergies renouvelables, parce qu'on s'est rendu compte que ça n'était pas ni le fin fond de la solution, ni le seul problème en Argentine. Mais voilà, ça s'est un peu imposé en disant, Ça, c'est une thématique d'actualité. Ça va nous permettre de voir des choses.
Quand tu as décidé de transformer, enfin de lancer Rénovation et d'en faire un vrai projet entrepreneurial, les missions que tu faisais, est-ce que tu as des exemples, des missions qui t'ont marqué?
Oui, ben, notre premier client qu'on a trouvé, c'était une grosse cave qui est le plus grand exportateur de vin bio argentin, qui s'appelle la Bodega Argento. Et en fait, c'était un audit énergétique, tout simplement. Donc là, c'était d'analyser l'ensemble de la consommation énergétique du groupe, c'est-à-dire la cave, le centre de production, mais aussi les différents bâtiments de bureaux et surtout les vignobles, parce qu'en Argentine, la grande consommation énergétique liée au vin, c'est l'irrigation. En fait, il y a une pluviométrie très très faible, c'est un climat semi-aride à Mendoza, et donc toute l'eau arrive soit de l'eau de fonte des neiges qui vient des Andes, qui sont vraiment juste à côté, soit des nappes phréatiques. Et en général, l'eau de la fonte des neiges ne suffit plus vu les tailles d'exploitation qu'il y a en Argentine, puisque c'est vraiment gigantesque. C'est pas du tout au même échelle qu'on peut connaître en France, par exemple. Il y a des vignobles, enfin il y a des caves qui ont des milliers d'hectares. C'est vraiment très très gros.
Ah oui.
Et donc ils vont dans les nappes phréatiques et ils pompent beaucoup d'eau à des grandes profondeurs, ce qui suppose une consommation énergétique très grande. Et donc nous, on devait analyser tout ça et proposer des pistes d'amélioration technique et organisationnelle. Donc ça a été notre premier projet, et puis ça en a donné d'autres liés à des caves sur lesquelles, au fur et à mesure, on a affiné l'offre, sans rentrer dans les détails, mais en étant plus argentin, c'est-à-dire beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins d'analyses très longues à la française, et beaucoup plus de directement passer aux solutions pour permettre des économies qui, on va pas se le cacher, en général, quand même, le premier indicateur qui était regardé, c'était les économies financières qui étaient regardées par le client. Et donc des économies financières qui supposaient quand même un minimum d'économie d'énergie et donc de réduction de l'empreinte écologique. Et voilà, en deux mots.
Et tu avais suivi une formation particulière pour pouvoir faire ces diagnostics? Parce que j'allais dire, en école de commerce, ce n'est pas forcément ce qu'on apprend. Comment aider à la réduction de l'utilisation des énergies?
Non, pas de formation particulière. Et en fait, si avant de me lancer, avant d'arriver en Argentine, si quelqu'un m'avait dit que je lancerais une entreprise en Argentine, et encore plus sur une thématique telle que celle-là, évidemment, je l'aurais jamais cru. Et en fait, c'est évident. Et d'ailleurs, ce syndrome de l'imposteur m'a poursuivi durant toute mon expérience entrepreneuriale. Mais en deux mots, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé l'investigation à vélo, au départ, c'était vraiment une investigation. Donc, on rencontrait des gens, on prenait des notes, on faisait des interviews. Et puis, au final, les deux, avec mon ex-compagne, on venait du conseil. Et donc, qui dit conseil, dit quand même, tu as toujours cette envie de conseiller, de voir ce qui peut être amélioré, de proposer des solutions. Et donc, très vite, à force de parler avec des gens, tu en tires quelques leçons. Et puis, on avait envie de bosser sur des projets. On avait marre de juste écouter. Et en fait, ensuite, on a été amené dans une deuxième phase de l'investigation à proposer nos services gratuitement à des municipalités qui avaient des projets en tête et qui savaient pas trop par où commencer, qui n'avaient pas le temps de le faire. Et donc, on a bossé pour des municipalités en campant en général ou en dormant par terre dans les bureaux. C'était assez assez folklorique. Mais on leur disait, c'est quoi votre projet? Bah tiens, on voudrait installer des biodigesteurs parce qu'on a quand même, on a des écoles et puis ça pourrait être un bon moyen pour l'école agraire de former les élèves dans le sens où ils pourraient le manipuler eux-mêmes. Ok, bah on va faire une étude de pré-faisabilité pour voir est-ce que ça serait possible, combien ça coûterait, comment on pourrait le financer, où ça pourrait se faire, avec quel type de fournisseur. Et donc, on a commencé à bosser là-dessus et on s'est rendu compte qu'avec une tête non pas bien pleine mais bien faite, pour reprendre Rabelais, déjà en étant structuré, on pouvait vraiment apporter quelque chose. Et donc ça nous a mis la puce à l'oreille en se disant, soyons structurés, soyons à l'écoute, soyons curieux, et déjà, on pourra aider plein de projets. On était certain, on peut aider des projets même sans aide des ingénieurs. Et donc, ça a été un peu le leitmotiv. Et après, forcément, on s'est quand même associé avec un ingénieur qui avait des compétences très élevées sur le sujet. Et donc, ça nous permettait d'avoir cette patte technique pour aller au fond des choses et pas vendre du vent, quoi. C'est important pour nous.
Et ça a l'air vraiment génial comme projet. Pourquoi est-ce que tu as arrêté?
Bon, y a différentes raisons. Il y a des raisons personnelles, puisqu'on s'est séparés avec ma compagne qui était aussi une associée. Et donc ça avait un impact personnel, puis ça avait aussi un gros impact professionnel, parce qu'une associée en moins qu'en trois, c'est assez complexe. Ça suppose encore plus de travail alors qu'on travaille déjà énormément. Et puis il y avait un autre aspect, c'était un aspect, je dirais, de réalité à court terme, de disponibilité, parce que cet associé en moins et le fait qu'on soit que deux signifiait qu'on avait une force de vente en moins qui était beaucoup plus faible à un moment où c'était les vendanges qui étaient proches de commencer, donc une période moins propice à la vente dans le secteur viticole. Ça a été un autre aspect qui a un peu m'a donné un peu envie de partir. Et puis je dirais la troisième raison, c'était plus le fait que le contexte argentin était très compliqué sur le plan macroéconomique, avec une crise qui s'enlisait et qui allait de mal en pis bien avant le confinement, et des résultats d'élections présidentielles qui étaient assez défavorables à notre activité directement par rapport au prix de l'énergie et à celle de nos clients principaux, à savoir l'industrie viticole, avec des freins administratifs notamment et financiers à l'exportation, ce qui était assez nuisible pour l'industrie viticole argentine. Donc les perspectives s'annonçaient noires, s'annonçaient avec énormément de travail à investir pour essayer de continuer à maintenir un niveau d'activité, au-delà même de la partie financière, un niveau d'activité, un niveau de croissance et d'une entreprise qui est pérenne. Et puis la possibilité à tout moment que tout soit perdu parce que l'Argentine devient insolvable, par exemple, et que là la crise dégénère complètement. Et donc l'un dans l'autre, je me suis dit que c'était le moment de au minimum de mettre ça sur la glace, quitte à revenir peut-être dans quelques années quand le contexte est un peu plus favorable, mais voilà.
Et donc, tu es rentré en France, et là, boum, Covid et confinement. Et tu en as profité pour devenir animateur de la fresque et de d'automne. Et c'est ce que tu as envie de faire encore aujourd'hui, dans les mois qui viennent.
C'est possible, ouais. C'est possible que ça devienne, ce que ça devienne, je dirais, la formation devienne mon activité principale à moyen terme, et que j'essaye vraiment de structurer mon offre et pour en faire quelque chose de beaucoup plus, d'encore plus sérieux et professionnel, je dirais. C'est une piste, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je suis toujours attiré par l'entrepreneuriat, donc ça se pourrait que je me lance dans une autre entreprise si ça me plaît, sur tout ce que plaire signifie. Et puis j'envisage aussi de reprendre des études, notamment peut-être précisément sur les aspects techniques qui peuvent me manquer parfois par rapport à l'énergie. Donc
Plusieurs possibilités qui s'offrent à toi.
Exactement.
Alors je refais, là maintenant je fais un retour en arrière pour revenir à l'époque du Canada, puisque donc avant Renovation, tu étais au Canada et tu faisais quoi là-bas? C'était quoi ton métier?
Alors mon métier, c'était de faire vivre, permettre à des gens ordinaires de vivre des expériences extraordinaires et de relever des défis extraordinaires ensemble. Avec toutes les conditions de sécurité, d'expérience et, je dirais, de maintien des engagements logistiques que cela nécessite. Donc, en fait, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui s'appelle le groupe Esprit de Corps, Elle faisait des programmes sur plusieurs mois, voire plusieurs années, qui étaient des programmes où le but c'était mobiliser les gens et, je dirais, changer la culture d'entreprise, c'est-à-dire permettre aux gens d'être plus épanouis en entreprise et de leur vie personnelle parce qu'ils communiquent mieux, parce qu'ils ont peut-être des meilleures habitudes de vie en général, et puis aussi d'être beaucoup plus capables de mieux communiquer entre eux, de donner peut-être plus de sens en étant plus au clair sur pourquoi on travaille, sur quelle est notre vision collective, sur quelles sont nos priorités. Est-ce que notre priorité, c'est de gagner beaucoup plus d'argent ou est-ce que c'est aussi de faire attention aux uns et aux autres? Donc, il y avait tous ces programmes-là qui avaient un aspect transformationnel sur les entreprises et qui se concluaient par des gros défis qui étaient à la fois corporatifs parce que c'était des vrais défis en entreprise où il y avait des fois des enjeux de visibilité aussi externes et avec un peu un show. Et puis, un des vrais enjeux de, on veut que les gens vivent une expérience, notamment marquée par l'interdépendance. Donc, si on monte une montagne, le but, c'est pas de dire, on monte à la queue leu-leu et puis le premier arrivé félicite les autres quand ils arrivent. C'est vraiment de le faire en interdépendance et de s'entraider dans toutes les étapes du processus pour le faire tous ensemble. C'est-à-dire que ce soit une personne qui a des problèmes de santé, qui a on a des gens par exemple qui avaient été amputés du pied, qui avaient subi une greffe et donc qui étaient limités dans leur mobilité et qui montaient dans le même groupe que des gens très très en forme. Et donc il y a des protocoles d'aide à mettre en place pour que tout le monde puisse aider les uns les autres. Et donc moi, mon métier, c'était d'organiser ces programmes-là et ces expériences-là, ces opérations ou événements, appelons-les là, pour faire en sorte qu'il y ait tous les enjeux de sécurité et que les gens passent la meilleure expérience avec ce cahier des charges, je dirais vraiment expérientiel. On veut qu'ils le fassent d'une certaine façon pour qu'ils en tirent certaines leçons et qu'ils vivent certaines émotions ensemble.
Ça a l'air hyper excitant aussi. Bah encore une fois, pourquoi est-ce que tu as arrêté? Qu'est-ce qui t'a poussé à changer complètement pour partir en Argentine? Enfin, d'abord faire ton voyage à pied et ensuite partir en Argentine. Qu'est-ce qui te manquait dans ce métier, dans l'esprit de corps?
Ce qui me manquait, c'était plus une intuition. En fait, j'avais une intuition que c'était un métier qui était passionnant. J'avais quelques divergences de vue peut-être avec la direction ou peut-être une impression de manque de transparence qui commençait à trotter un peu dans la tête. Mais au-delà de ça, ce qui me manquait, c'est qu'il y avait une envie de découverte. Dans le sens où ce métier-là restait passionnant dans les modalités de son travail, mais j'avais un peu l'impression parfois de travailler quand même parfois pour des grosses entreprises en partie, dont l'objectif final, ça restait quand même de maximiser leurs profits, de vendre plus avec des enjeux de communication. Et même si je ressentais les bénéfices, je dirais, humains de nos projets, et qu'il y avait toujours beaucoup d'émotions, et que les gens, entreprise par entreprise, bah, quand quelqu'un pleure et te remercie parce que il te dit que le programme a changé sa vie, tu restes très content. Mais j'avais l'impression que j'avais plus à découvrir en vivant autre chose. Et l'impression d'avoir envie de suivre ma voie. Et c'est ça qui m'a amené à partir. Et cette petite, moi j'appelle ça un peu une inception, puisque il y a des critères, je pense que pour beaucoup de décisions, il y a des critères parfaitement objectifs, rationnels, très très bien calculés, et beaucoup qui relèvent vraiment de une idée, une intuition qu'on a, qui naît en nous et qu'on n'arrive pas trop à maîtriser, mais qu'on décide de suivre ou pas. Et en l'occurrence, j'ai décidé de la
D'accord.
suivre en me disant, suis ta voie, vis ton propre défi et essaie de te construire ta propre vision du monde. J'avais l'impression de plus en plus que ma vision du monde, elle était beaucoup préemptée par l'entreprise parce que mon travail était ma vie et que j'y passais quasiment tout mon temps. Et j'avais envie de me développer la mienne et c'est pour ça que je suis parti sur un projet où je me suis dit là, a priori, je vais être obligé de penser par moi-même et de développer ma vision du monde.
Oui, parce que comment ça t'est venu cette idée de projet de marche à pied en France? Et est-ce que tu avais un objectif particulier?
Le projet, il est venu en, il est venu, Le cœur du projet, il est venu. J'ai fait une première transatlantique en 2015. Et en revenant, donc c'était merveilleux. Et en revenant au bureau, j'ai eu vraiment comme si, c'est un peu cliché peut-être, mais comme si une partie de moi était un peu restée sur le bateau. Et forcément, c'est un choc, je pense, normal, mais tu passes d'un mode de vie où tu as une adrénaline et puis une camaraderie surtout et un émerveillement sur la nature qui est total, qui est 24 heures sur 24 et qui est incroyable, avec un rapport au temps complètement différent. Et tu reviens au bureau et même si tu es content de revoir tout le monde et que ton métier te plaît, tu as quand même une partie de toi où tu dis waouh, mais moi je veux vivre ce que j'ai vécu sur le voilier, je veux vivre ça tous les jours en fait. Et donc là, il y a eu cette première inception, cette première graine d'idée de est-ce qu'il faudrait pas que je voie quand même vraiment autre chose et que je parte sur ma propre voie. Et ça s'est matérialisé en voyant une interview d'un garçon qui avait un projet qui s'appelait Ma France Méconnue et qui avait fait un tour de France sur la recherche du patrimoine. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est bien. Moi je suis français, mais j'ai très très peu vécu en France métropolitaine. C'est un pays qui me fascine, il y a plein de choses à voir, c'est tout petit et en même temps c'est très varié. Et donc je suis parti comme ça. Et au début, pour répondre à ta question sur les objectifs, au début je m'étais mis des objectifs de dingue, à savoir que j'avais pris un iPad avec un clavier parce que je voulais faire tout en même temps. C'est-à-dire je voulais écrire et composer des morceaux de rap en faisant de la composition alors que j'y connaissais rien. J'avais pris un harmonica parce que je trouvais ça pas mal pour des compositions de rap. Je voulais écrire une sorte de manifeste philosophique personnel. Je voulais écrire un roman. Il y avait quoi d'autre? Écrire des plans d'affaires d'entreprises qui voudraient créer.
Wow, ouais, beaucoup
de plein de choses comme ça. Et finalement, en fait, j'ai rien fait de tout ça ou presque. Mais en gros, j'ai vraiment pendant chaque jour, en fait, c'était vraiment un pur trip de bonheur, quoi. Sincèrement, c'était relativement extatique ce que j'ai vécu en marchant. Et donc, il y a eu très peu de productivité, je dirais, aucune productivité de création de quelque chose, mais par contre du bonheur absolu, quoi, grosso modo.
Et de ce que tu me dis des différences de parcours, que ce soit la transatlantique, ta marche à pied, ton projet Rénovation à vélo en Argentine, comment est-ce que tu expliques que tout ça, ces différentes étapes, t'es amené aujourd'hui à finalement essayer de former des gens aux enjeux énergie-climat, avec quelque part un activisme écologique assez poussé?
C'est une excellente question et j'y ai réfléchi en fait avant l'entretien. Et en fait, j'ai pas eu du tout de. Souvent, on parle de prise de conscience écologique, par exemple. Et je sais que moi, sur cet aspect-là, mais en général, sur beaucoup d'aspects, j'ai rarement, un moment T ou une période sur laquelle je peux dire là j'ai une prise de conscience. C'est une sorte d'équinoxe, c'est un peu la révélation où tu dis waouh,
ouais, t'as fait,
mis la puce à l'oreille. Moi je l'ai pas eu. En fait, c'est vraiment plus par l'action. C'est-à-dire que par exemple, je pense qu'en 2014 jusqu'à début 2015, pendant quasiment un an, j'ai été végétarien avec et en fait ça s'est fait. Ça s'est fait. Il y avait déjà des considérations écologiques parce que j'avais une amie, une coloc qui était végétarienne à Montréal, et ça, j'aimais comment elle en parlait, j'aimais ce que ça dégageait, j'aimais cet engagement-là pour quelque chose. Donc j'ai lu un rapport sur l'impact de la nourriture, et puis je me suis dit allez, ça se tente, ça me plaît. Donc en rentrant de vacances un jour, j'ai dit allez, hop, je me lance comme végétarien. Et puis déjà, ça a quand même été des choses où ça t'amène un peu à non seulement à lire sur le sujet, à réfléchir un peu sur le sujet, mais aussi à t'engager et à voir les réactions des autres et à en subir, je dirais les conséquences positives ou négatives. Et après, ça s'est fait progressivement. C'est sûr que pour le Tour de France à pied, C'était pas forcément une envie de retour à un mode de vie simple, purement et simplement. Par contre, il y avait cette notion de dire, j'ai envie de voir ce que je peux vivre le plus simplement du monde et pendant une durée assez longue, en dépendant que de moi, en étant, en ayant besoin de très peu de choses. Et cette volonté quand même de simplicité et de voir, est-ce que c'est possible, est-ce que ça marche, est-ce que ça me plaît? Et c'est là encore, ça a permis forcément de nourrir la réflexion. Mais je dirais que pour moi, l'engagement, il s'est fait toujours par l'action. C'est-à-dire qu'il y avait l'intuition après, comme je t'ai dit, pour repartir en Argentine, l'intuition que c'est ça que je voulais faire, que je voulais avoir quelque chose qui soit lié à la transition écologique et sociale, parce que c'était au carrefour voilà, l'enjeu climatique et l'enjeu social, j'en suis convaincu. Très vite va se mêler et se confondre, et je pense c'est déjà le cas en bonne partie. Et on ne pourra pas parler trop de social sans parler de choses qui sont liées à l'écologie, et vice-versa, il y aura des conséquences sociales aux enjeux écologiques. Et donc, je me suis dit, les enjeux du monde, ils sont là-dessus, et il faut que moi, je sois du bon côté de l'histoire. Il faut que j'apporte ma solution.
D'accord.
Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais c'est vraiment un engagement plus par l'action que un besoin parce que mon esprit m'aurait dicté que maintenant je dois faire ça. Je sais pas
Oui,
si
non, je comprends. J'ai l'impression en fait que c'est aussi l'évolution, enfin, ton engagement était quelque part peut-être plus sociétal. Après, tu as l'air d'avoir un amour de la nature aussi assez important hein, à travers les différentes expériences que tu as faites. Et oui, et par la force des choses, étant donné aussi que la société évolue vers finalement une prise de conscience écologique, c'est peut-être que les deux sont un peu liés, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre par rapport à ce que tu me dis.
Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça. Tu perçois que, et y a, bon, il n'y a pas besoin d'être devin aujourd'hui pour le percevoir, parce que comme tu dis, on commence à en parler beaucoup de ces thématiques-là. Tu perçois qu'il y a un enjeu immense devant toi, et tu te dis, il y a des choix à faire. On ne pourra pas rester neutre là-dessus. Et dans quelques années, on va tous devoir j'irais se juger par rapport à ça. On va tous devoir dire quel rôle j'ai eu là-dedans. Et sans être dichotomique, tu vois, est-ce que je suis du bon ou du mauvais côté? Mais au moins, je me suis dans mes intentions, dans les critères qui m'ont fait prendre des décisions, dans l'intégrité que j'ai mis dans mes choix. Il faut que je m'intéresse à ces sujets-là et que je les prenne en compte et que ça devienne quelque chose de fondamental dans ce que je veux faire. Et c'est ça qui m'a amené à prendre des décisions en me disant, je veux être intègre sur ces aspects-là, dans les choix de carrière. Je veux me dire que j'ai été du bon côté, j'ai œuvré dans le bon sens.
D'accord. Et justement, par rapport à cette image que tu as envie de renvoyer aux autres et de dire, voilà, j'ai œuvré dans le bon sens, j'ai participé à ce qu'on a essayé de faire les choses bien, quelle a été un peu la réaction de ton entourage? Alors maintenant, là, quand tu es rentré en France pour dire que tu allais être animateur ou enfin participer à l'animation de fresques, j'imagine qu'ils sont un petit peu habitués aussi à ce que tu fasses des choses assez extraordinaire, puisque tu as quand même fait pas mal de choses hors du commun. Mais comment est-ce qu'ils le perçoivent?
Comme tu dis, je pense qu'il y a une habitude qui s'est développée dans mon entourage. Par exemple, au début, quand j'ai annoncé que j'étais végétarien, ça a été, je dirais, plutôt très mal pris de façon générale parce que je fais 1,95 m, je pèse en ce moment 102 kg, mais il y a eu des moments à 120. Bref. Bon, voilà, je suis un bon vivant. Et donc forcément, quand tu dis PA, le bon vivant, le gars qui a un bon coup de fourchette, qui adore un bon steak, etc., et qui dit qu'il est végétarien, il y a un côté, ça sonne pas net. Il y a anguille sous roche, et il y a peut-être la volonté de se mettre en avant et de de lancer un message politique et identitaire plus que vraiment une démarche honnête. Donc là-dessus, j'ai eu pas mal de discussions accrochées, que ce soit avec des collègues à Montréal ou que ce soit avec ma famille, qui est une famille de bouchers depuis 4 générations.
Ah oui, effectivement, pas facile.
Pas facile, mais pas toujours par ceux qu'on croit d'ailleurs. Mais bon, c'était voilà, y a eu, là j'ai vu en fait que sur ces sujets-là, c'était compliqué parce qu'en fait, dès que tu faisais un, c'est un peu le principe, c'est, je pense que la meilleure façon et la seule façon de n'avoir aucune incohérence et aucun paradoxe personnel dans ton intégrité, c'est de ne rien faire et de ne croire en rien. Et donc, quelqu'un qui dit, moi, je ne fais rien, je ne crois en rien, rien n'est important pour moi, et je n'assume aucun parti pris philosophique ou politique sur aucun sujet, cette personne-là, elle est absolument certaine qu'elle ne pourra jamais être prise à défaut ou jamais être critiquée d'être incohérente. Parce qu'elle dit, moi je crois en rien. Donc vous ne pouvez pas me reprocher d'être incohérent. Par contre, à partir du moment où une personne donnée dit, moi je sais que je suis très imparfait dans ma vie, je suis médiocre, plus que médiocre dans ma vie, mais là je vais essayer de faire quelque chose un peu mieux et je vais essayer de donner un peu de sens à une action que je fais, que ce soit sur l'alimentation ou sur n'importe quoi. Très vite, cette personne-là, elle va être amenée à dire, ok, mais alors c'est quoi ton objectif final quand tu es végétarien par exemple? Et puis tu dis, bah il y en a plusieurs, mais un des enjeux c'est que en fait la production de viande c'est très très mauvais pour l'environnement, sans rentrer dans les détails. Et ben ils vont te dire, ah bah oui, mais attention parce que ce matin t'es arrivé en voiture, donc ça aussi c'est mauvais pour l'environnement, donc t'es complètement incohérent. Et donc là tu lui dis, bah oui, je suis pas encore Nelson Mandela. Je sais, hein, je suis pas encore parfait, mais j'essaye de faire un petit truc et mon intention n'est pas forcément de crier sous les toits que je suis quelqu'un de formidable. C'est juste de vous dire et d'assumer. J'essaie de faire un petit acte positif, de questionner un peu une de mes habitudes de vie. Et donc très vite, toi-même, tu es mis face à tes propres contradictions parce que tu assumes une volonté de dépasser ta condition de juste petite personne qui fait ce qu'elle a à faire tous les jours et que tu ajoutes un critère en plus qui est un critère moral dans tes prises de décision. Donc tu vas être amené à avoir des incohérences, premièrement. Et deuxièmement, en disant à quelqu'un, moi j'essaye modestement d'être un peu meilleur dans ma vie, tu renvoies cette personne-là face à ses propres contradictions ou à son absence de conviction et d'engagement sur des sujets. Et donc très vite, je pense que les gens, mais c'est ma toute petite analyse, ils ont un réflexe de défense. C'est-à-dire, ça ne me plaît pas que quelqu'un fasse des efforts pour être meilleur, alors que moi, peut-être que je n'en fais pas tant que ça, ou alors j'en fais, mais je le dis pas. Et ça m'embête que cette personne le dise. Et donc, je vais essayer de casser un peu la démarche de cette personne pour me rassurer sur le fait qu'en fait, elle sait pas vraiment être meilleure et que donc moi, je peux bien continuer à ne pas faire d'efforts de mon côté.
Et toi, alors, par rapport à justement ces réactions que tu peux avoir, est-ce que c'est quelque chose qui te freine, enfin, ça n'a pas l'air, hein, donc je te pose la question, mais j'ai pas l'impression que finalement tu t'embêtes trop de ces questionnements ou du fait que les gens te relèvent un peu les incohérences, puisque tu vas de l'avant à chaque fois.
Non, effectivement, c'est quelque chose qui ne me freine pas, mais je pense pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'en fait, dans mon entourage, les gens commencent à être habitués à ce que, effectivement, comme tu dis, je vive différentes aventures. Et donc, je pense qu'ils sont plus surpris par grand-chose. Et donc, voilà, c'est pas comme si donc j'avais toujours eu la même situation et que du jour au lendemain, drastiquement, je quitte mon métier et je décide de m'installer dans une ferme ou de partir à pied pour une durée complètement indéterminée, sans objectif, juste pour vivre comme un ermite tranquillement. Je pense que les gens commencent à, dans mon entourage, commencent à voir un peu tout ça, donc ils sont moins surpris et donc ils disent bon bah c'est PA, il change encore, il a différents projets par rapport à ça. Ça c'est une première chose. La deuxième chose qui rend ça moins moins violent, je dirais, c'est le fait que, avec beaucoup de modestie, je m'engage beaucoup sur ces sujets-là. J'essaye beaucoup de travailler aussi sur mon mode de vie, mais je suis pas encore je suis encore au début d'une transition, clairement. C'est-à-dire que ce soit dans mon mode de vie, il y a encore beaucoup de choses où je dis pas non, notamment quand je suis avec la famille ou avec l'entourage. Je suis encore très consensuel en général, c'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais végétarien, j'avais décidé, quand je rentrais dans ma famille, dans le Haut-Jura, et chez mes grands-parents en boucher, j'avais décidé de manger de la viande à ce moment-là parce que je voulais pas en fait passer toutes mes vacances à devoir
Te justifier.
justifier et à chaque repas dire non, non, je mangerai pas. Mais t'adores la viande, on te connaît, tu manges normalement, tu reprends, tu finis les steaks de tout le monde. Je dis bah oui, mais là non. Bref, donc en fait, je suis pas du tout dans une posture radicale encore dans mon mode de vie sur pas mal d'aspects et je m'adapte beaucoup au contexte socialement. Donc là-dessus, ça me permet d'être encore très malléable et de m'adapter aux gens, ce qui est aussi une voie de facilité, hein, je le reconnais facilement, mais qui a fait que jusqu'à présent, mes différents engagements m'ont pas amené à me couper d'amis ou de famille ou autre. Il y a eu des débats houleux, mais ça m'a pas coupé en tant que tel.
Et si je reviens plus sur le côté professionnel de tes choix, là pour le coup, on peut dire que tu as fait quand même des choix assez radicaux. Et c'est jamais quelque chose qui t'a fait peur par rapport à tes études, en te disant, bah ouais, non, je pourrais avoir finalement un job plus peinard, entre guillemets, ou quelque chose de plus facile. Même aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas quelle est exactement ta situation, mais je pense que beaucoup de gens pourraient se sentir en insécurité, que ce soit au niveau financier ou par rapport à l'incertitude exacte de ce que tu veux faire. Comment est-ce que toi, tu te sens?
Là-dessus, je dirais que j'ai une chance, c'est que probablement de par le fait de grandir en Guyane et c'est possible que ça vienne de ça, c'est-à-dire qu'en Guyane, quand tu grandis, t'es tout le temps dans la nature, c'est-à-dire soit tu vas à la plage, soit tu vas à la forêt, tu vas aux îles du Salut, au large de Kourou, enfin bref, donc t'es toujours dans la nature, ce qui est merveilleux. Mais t'as très peu d'activités, je dirais, sophistiquées ou complexes ou même très coûteuses en fait en tant qu'ado, tu vois. Donc t'as besoin de très peu de choses, que ce soit en termes de confort, tout ça. Tu dis, moi mon week-end de rêve, c'est d'aller dans une cabane dans la forêt. Il n'y a pas de lit, il n'y a même pas de matelas. On dormira sur des planches de bois, mais on fera la fête et on sera content. Et je pense que ça a contribué en fait à créer chez moi, et ça s'est renforcé après avec beaucoup d'aventures à Montréal et puis le Tour de France qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est que je me suis rendu compte que pour mon confort à moi, je suis encore jeune, j'ai 30 ans, j'ai besoin de très peu d'argent. J'ai besoin de
D'accord.
très peu d'argent, j'ai pas un besoin de consommer quoi que ce soit. Ça m'embête de consommer, ça m'embête d'acheter des choses en général, et ça m'embête encore plus depuis que je connais les impacts environnementaux. Donc, ça, c'est une grande chance parce que j'ai pas un besoin d'argent très grand et que je suis prêt à réduire largement mes besoins quand le besoin s'en fait sentir. C'est-à-dire notamment en Argentine, il y avait peu de rentrées d'argent et là c'était vraiment un mode de vie qui pendant plusieurs mois était réduit je vais pas dire au strict minimum. Il y a des gens qui, c'est parce qu'il faut pas manquer de respect à des gens qui vivent beaucoup plus chichement que ça, mais c'est vrai que des fois j'étais amené à vraiment avoir un mode de vie très 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 sommaire, et j'ai pas un grand besoin d'argent, donc ça c'est une chance, et j'ai pas une grande peur du futur là-dessus, parce que je me dis, si un jour j'ai besoin d'argent, je ferai ce qu'il faut. Bah si j'ai vraiment besoin d'argent, je ferai ce qu'il faut pour en trouver, et pour trouver un boulot ou quelque chose comme ça pour vraiment en gagner. Donc ça c'est une autre chose. Et le dernier point quand même qui est super important, c'est que dans ma famille, tout le monde va bien, personne n'est dans le besoin, il n'y a pas de grandes maladies ou de proches qui sont en situation de dépendance qui auraient besoin de moi, c'est quand même important, ça me permet de faire ça. Et je sais que je peux compter sur la famille pour m'aider en cas de coup dur. Une tante qui peut m'héberger, mes parents qui peuvent m'héberger, mon frère, et puis qui peuvent me filer même un coup de main financier, je pense, si vraiment un jour j'étais dans le gros besoin. Donc ça, c'est quand même, on va pas se le cacher, un luxe incroyable.
Du coup, on arrive à la fin de cet entretien et je voulais savoir si tu avais des conseils ou un message pour les gens qui se posent des questions, qui auraient envie de s'engager autrement, mais qui n'osent pas forcément.
Alors, je pense que le premier conseil, c'est d'oser. C'est vraiment d'oser parce que, voilà, c'est un peu ma façon à moi de fonctionner, c'est-à-dire, je crois beaucoup en l'effet d'entraînement, et que se créer une, par exemple, à la voile, tu te crées une vitesse, et une fois que tu as de la vitesse, tu es entraîné et c'est plus facile, en fait. C'est-à-dire qu'un bateau qui est à l'arrêt, il subit les vagues de plein fouet et ça tangue énormément et ça donne vraiment beaucoup le mal de mer parce qu'on sait pas trop où on va, on n'a pas beaucoup de vitesse et donc on est vraiment soumis à toutes les petits problèmes du quotidien. Et donc se donner une vision claire, c'est très compliqué dans ce cas-là. Par contre, si on commence à agir, à se lancer vers quelque chose et qu'on se donne un peu de vitesse, à ce moment-là, le bateau, il dépend beaucoup moins des vagues, il passe à travers. Les vagues le touchent, mais beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus agréable, en fait. Et même si le cap n'est pas défini, c'est-à-dire on ne sait pas encore si on va pile poil vers la ville ou le continent qu'on vise, on se dit au moins j'ai de la vitesse et je pourrais après faire une hyperbole ou faire un virage qui me permettra d'utiliser cette vitesse pour aller là où je veux aller. Et donc, en fait, Sartre disait la seule vérité, c'est l'action. Et moi, je pense que c'est une forme d'engagement. Aussi modeste soit-il, je pense que c'est super intéressant parce que ça éclaire en fait notre vie. Et donc, si j'avais un conseil, c'est engagez-vous sur quoi que ce soit sur cette thématique-là qui vous plaît, sans forcément trop réfléchir. Si vous avez un pote qui est dans une asso et puis ça a l'air plutôt cool et puis vous dites bah ah mais ça peut peut-être être très long, tu dis bah non, écoute moi a priori j'aurais que 2 heures par semaine ou moins, mais ça ouvre des portes, ça permet de rencontrer des gens, de parler. Et surtout, et pour moi, c'est la différence que j'ai vue entre mon Tour de France à pied, où j'avais pas un projet clair, où vraiment j'étais là pour profiter et je profitais bien, et l'Argentine, où je suis parti à vélo avec vraiment un axe de recherche donné, c'est que quand tu te donnes un sujet d'intérêt comme ça, ça te donne un angle de prise et de regard sur le réel. Et cet angle de regard, en fait, il te permet d'être beaucoup plus curieux, d'être beaucoup plus ouvert aux opportunités, parce que précisément, tu as un angle. Donc chaque chose, chaque montagne, chaque rencontre que tu fais, tu te dis pas, bon, bah, c'est juste une personne comme une autre, et puis on va boire une bière. Tu dis peut-être que cette personne-là, sur le sujet dont je parle, elle a plein de choses à m'apprendre, d'une façon très différente. Et donc, en fait, ça te donne un focus, un niveau d'attention à tout ce que tu vis, à tout ce que tu vois, à tout ce que tu lis, qui est complètement différent, et qui te permet d'apprendre, 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 de rencontrer, d'avoir plein d'énergie, de partager cette énergie aux autres et de diffuser un peu des choses positives tant que c'est fait avec, je pense, avec intégrité ouais, avec intégrité, quoi. Donc, ça serait mon conseil principal, je pense.
Bah, génial, je te remercie beaucoup, Pierre-Alex, pour cet entretien et ces conseils. Je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, merci à toi JP, et puis longue vie à Osée. Je trouve que c'est super d'échanger sur ces thématiques-là. C'est très intéressant. Pour moi, c'était très intéressant.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure.
Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez !